Vous écoutez, on lit pour vous.
Enseigner le français pendant une crise du logement, Zoom sur l'ouest du Labrador. Un texte de Rachel Power, paru le 13 janvier 2023 dans Le Gaboteur de Terre-Neuve et Labrador. La crise du logement se fait sentir dans toute la province, et plus particulièrement à l'ouest du Labrador, où les mines de fer attirent un afflux de travailleurs venus de partout. Si se loger peut être une mission impossible pour certains dans la région, l'apprentissage de la langue française risque aussi d'être en danger. Comment la crise sera-t-elle gérée en 2023? Labrador City se situe sur la frontière entre le Québec et Terre-Neuve et Labrador. En raison de sa situation géographique, il y a une grande présence francophone. La présence de l'Association francophone du Labrador en est la preuve. La compagnie minière Iron Ore du Canada emploie aussi beaucoup de francophones. La ville de Labrador City a été construite autour des mines de minerais de fer qui sont les employeurs majeurs de la ville. À cause du grand nombre de travailleurs locaux et de contractuels, il y a un manque de logements. Toutes les propriétés locatives sont prises par ces travailleurs ou par les compagnies qui les emploient. Le problème du logement n'est pas seulement dû au manque de logements locatifs. Avec le coût de la vie qui augmente, les maisons qui sont à vendre et à louer à Labrador City sont bien au-dessus des moyens de la plupart des arrivants. Avec le prix élevé du logement ainsi que le manque de logements disponibles, la ville fait face à un problème de manque de place. Ce manque de logements peut bien provoquer plusieurs problèmes dans la région, même pour ceux qui ont un revenu stable, y compris, mais pas seulement. Des problèmes de santé mentale dus au stress associés au logement, des obstacles bureaucratiques liés au fait de ne pas avoir d'adresse permanente, ainsi que des risques plus graves pour les plus vulnérables, comme la toxicomanie. Mais le fait français de la région pourrait également faire face à un autre problème, un manque d'enseignants de français. Se loger en tant qu'enseignant de français. Le manque d'enseignants de langue française n'est pas un problème inconnu. Si la crise de logement est une des sources de la pénurie dans la région, ce problème pourrait s'aggraver. Si les enseignants ne peuvent pas trouver un lieu de vie, ils ne peuvent pas déménager pour travailler dans les écoles de la région. C'est difficile de s'engager, d'enseigner dans un endroit où il n'y a pas de logement, explique un récent diplômé de l'Université Memorial. Le stress de trouver quelque part à habiter avec des prix aussi élevés ne vaut pas l'emploi. Une autre récente diplômée parle du fait que ce ne sont pas seulement les enseignants permanents qui manquent dans les régions rurales comme au Labrador. La pénurie de remplaçants me détourne. Il y a déjà beaucoup de stress, car je serais une des seules enseignantes de français. Si j'avais besoin de prendre un jour de congé pour n'importe quelle raison, il n'y aurait personne pour me remplacer. Ce n'est pas une situation dans laquelle je veux m'impliquer, ajoute-t-elle. Malgré les défis, la Big Land est une destination de choix pour certains jeunes enseignants. C'est un bon endroit pour commencer une carrière, explique Stephen Miles, enseignant actuel du centre éducatif L'Envol. Les écoles cherchent toujours des enseignants de français et c'est vraiment un endroit magnifique, particulièrement si vous aimez l'hiver. Je le recommande pour tout le monde. Il ouvre la porte au monde de l'enseignement. Que faire pour encourager plus d'enseignants à s'établir dans la région, même avec la prime d'éloignement accordée aux enseignants au Labrador? Il n'y a pas de réponse bonne ou simple qui encourage les gens à venir dans la région. Pour Stephen Miles, un partenariat entre le Conseil scolaire francophone provincial et un propriétaire francophone du coin a joué un rôle catalyseur dans son acceptation du poste. Quand il m'a offert de me donner un logement, j'ai décidé d'essayer d'enseigner au Labrador. Avec l'appartement fourni, je n'avais pas le stress de trouver un lieu où vivre avec la crise du logement. J'enseigne maintenant à L'Envol et je sens que ma carrière comme enseignant commence, raconte-t-il. Si certains jeunes enseignants rêvent de commencer leur carrière au Labrador, le logement reste un obstacle. En 2023, verrons-nous davantage d'initiatives pour loger les enseignants dans la région? Une situation à suivre. Le coût moyen pour acheter une maison. Labrador City, 340 666 $. Terre-Neuve et Labrador, 322 410. Le coût moyen pour louer un logement. Labrador City, 1012 $ par mois. Terre-Neuve et Labrador, 905 par mois. C'était Enseigner le français pendant une crise du logement, Zoom sur l'ouest du Labrador. Un texte de Rachel Power, paru le 13 janvier 2023 dans Le Gaboteur de Terre-Neuve et Labrador.
Technologique dans le domaine du handicap, un combat pour l'équité et l'accessibilité. Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin, paru dans le numéro 162 au printemps 2024 dans le magazine Paraquad. Dans la dernière décennie, le marché des aides techniques a été inondé de nouveautés technologiques toujours plus prometteuses les unes que les autres. Des exosquelettes aux neuroprothèses, en passant par les développements en matière d'assistance motorisée, il peut être très difficile de démêler ce qui est adéquat pour nos besoins et ce à quoi nous avons droit. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, définit si une aide technique est remboursée par les organismes publics de la province. Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur sa capacité concrète à s'assurer que les personnes en situation de handicap aient accès à des aides techniques qui répondent au mieux à leurs besoins. Parmi les problématiques majeures que nous avons identifiées, l'opacité dans les procédures d'inclusion et d'exclusion des aides techniques remboursées par la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, ou par les programmes d'aide technique du MSSS se dressent en premier plan. Une aide technique est indemnisée par la RAMQ si elle est énumérée dans le tarif des appareils suppléants à une déficience motrice et des services afférents assurés, tarif, ou s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par un professionnel de la santé autorisé, qu'aucun des outils énumérés dans le tarif ne peut répondre aux besoins spécifiques de l'individu. Cependant, les questions qui persistent sont de savoir quelles aides techniques peuvent être demandées pour les personnes aux besoins particuliers, quels sont les critères d'évaluation et qui décide de ces critères. Il n'existe malheureusement pas de ligne directrice publique en la matière. Cela complexifie énormément le travail des professionnels de la santé quand vient le temps de demander un équipement exclu du tarif. La seule solution est alors de faire la demande à l'aveuglette. Le risque est alors de faire face à un refus après de longs mois d'attente. ce qui peut être énergivore et décourageant pour une personne en situation de handicap en attente d'une aide technique dont elle a vraiment besoin et qui lui permettrait d'améliorer significativement sa vie. Rembourser ou pas? Un exemple illustrant l'imprévisibilité de la couverture des équipements pour des besoins particuliers concerne le remboursement des roues d'assistance motorisée e-motion. Il s'agit de roues qui s'installent par-dessus les roues d'un fauteuil manuel pour le propulser sans effort. Ces roues, sans équivalent pour les personnes atteintes de tétraplégie, ont été indemnisées pendant plusieurs années par la RAMQ. Elles ont ensuite été exclues pendant un certain temps pour finir par être de nouveau acceptées depuis quelques mois. Il nous est cependant impossible de connaître les raisons justifiant ces changements d'orientation au fil du temps, alors qu'il s'agit du même produit, du même besoin et du même type d'utilisateur. Ce manque de transparence fait en sorte que les personnes concernées ont du mal à faire un choix éclairé en regard de leurs conditions, de même que les ergothérapeutes peuvent éprouver certaines difficultés à orienter leurs patients. Par exemple, considérant le fait que le régime de la RAMQ ne permet l'indemnisation que d'un seul fauteuil, une personne peut se faire recommander un fauteuil motorisé à la suite de sa lésion, alors qu'un fauteuil manuel équipé des roues e-motion aurait davantage correspondu à ses besoins. Ce fauteuil-là lui offre une aide à la propulsion qui permet tout de même de faire un petit effort physique. Le fauteuil motorisé, lui, est lourd, large et ne permet aucune activité physique. Des règlements désuets. De plus, certaines réglementations sont désuètes. Prenons l'exemple du règlement sur l'appareil suppléant à une déficience physique qui a été établi en 1975. Il n'a jamais été révisé depuis. Cette désuétude entourant l'indemnisation des aides techniques soulève des inquiétudes quant à l'accès au développement technologique récent pour les personnes en situation de handicap. Des iniquités dans les remboursements. De plus, l'absence de mise à jour des règlements crée une iniquité entre les personnes qui dépendent du réseau public et celles qui sont couvertes par des agents payeurs comme la SAC, la CNESST ou l'IVAC. En effet, des innovations technologiques comme le bras robotisé manipulateur Jaco, reconnu pour améliorer significativement l'autonomie des personnes ayant des limitations motrices lourdes aux membres supérieurs, n'est pas remboursé par la RAMQ, mais l'est par la CNESST et la SAC. Émerge alors une grande disparité dans l'accès à certaines technologies, créant de la même manière des disparités dans l'autonomie et la qualité de vie en fauteuil. Face à ces défis et après avoir consulté ses membres, MémoQC a entrepris des démarches auprès de diverses instances concernées comme la RAMQ, l'INES et le MSSS pour que les politiques et les procédures en vigueur soient revues et soient également plus transparentes. À noter que la RAMQ a réalisé une consultation auprès des personnes en situation de handicap du 28 février au 15 mars 2024 afin de préparer son prochain plan d'action à l'égard des personnes handicapées, PAPH, 2024-2027. Nous avons diffusé l'information auprès de nos membres et attendons les résultats de cette consultation en espérant que les demandes formulées par les personnes en situation de handicap concernant les aides techniques seront prises en compte lors de la mise à jour du prochain plan d'action. Nous jugeons que l'accessibilité aux nouvelles technologies est une composante essentielle de la réadaptation qui permet de favoriser l'inclusion sociale, l'égalité des opportunités ainsi que l'amélioration de la qualité de vie. MémoQC continuera de travailler activement en ce sens et dans l'intérêt des personnes en situation de handicap, indépendamment de la source de leurs limitations. C'était « Nouveautés technologiques dans le domaine du handicap, un combat pour l'équité et l'accessibilité », un texte d'Annabelle Grenon-Fortin paru dans le numéro 162 au printemps 2024 dans le magazine Paraquad.
Stéphane Paquet s'équipe pour vivre la vie qu'il aime et bouger, un texte paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad. Stéphane Paquet possède un éventail d'équipements qui lui permettent de l'aider à maintenir sa mobilité comme il l'aime, c'est-à-dire en étant le plus actif possible. J'ai 46 ans. J'ai une vie à vivre. Je peux moins bouger qu'avant, mais quand je le fais, je veux en faire le plus possible. Quand j'ai eu mon accident en août 2010, j'étais très actif. Je partais faire de la randonnée avec ma conjointe presque toutes les fins de semaine et une fois par mois, on allait au camping en tente. L'année après mon accident en 2011, j'ai acheté ma première roulotte et nous avons commencé à faire beaucoup plus de camping. Ma petite fille avait 2 mois au moment de mon accident, se souvient Stéphane, qui est paraplégique avec une lésion cervicale et vit à Saint-Jérôme. La première roulotte de Stéphane a été entièrement adaptée grâce au financement de la SAAC. Très utile au début, elle n'a finalement pas convenu à Stéphane, qui devait sans cesse entrer et sortir et passer par la chambre pour se rendre à la cuisine. En 2018, le campeur s'est donc procuré sa seconde roulotte, un modèle plus petit, qu'il a beaucoup moins adapté à l'intérieur, mais qui lui permet de vivre et de tout faire dehors. Stéphane se souvient d'ailleurs de la difficulté qu'il a eue à revendre sa première roulotte entièrement adaptée. Même s'il la vendait moins cher qu'à son achat, il n'a pu trouver acheteur après 6 mois de mise sur le marché. Il s'est donc résigné à la vendre à la compagnie chez qui il achetait sa nouvelle acquisition. En camping, Stéphane vit dehors. Dans sa seconde roulotte, il est très facile de circuler et même de s'attabler à l'intérieur avec ses amis en se plaçant au bout de la table conçue pour 5 personnes. Pour le reste, une cuisinette est installée dehors avec un frigo, un auvent est installé par-dessus, très en hauteur, pour lui permettre de faire un feu et de rester à l'abri de la pluie. Stéphane et sa famille se sont organisés au fil des années et ont maintenant leur installation bien rodée, rapide et agréable. D'autant plus que sa fille, devenue grande, aide désormais bien plus qu'avant à la vie au camping. Une fois sur place, la famille de Stéphane Paquet remplit ses fins de semaine d'activités sportives en tout genre, ce, de la fin mai à début octobre. Stéphane embarque l'un de ses 3 vélos en fonction de l'activité prévue, ainsi que son kayak soufflé, son paddle soufflé et son hippocampe. Avec un couple d'amis, ils partent alors descendre la rivière Rouge sur 20 kilomètres. Ses amis l'aident pour les transferts, notamment quand ses bras sont morts, comme il le dit, après avoir tant pagayé. Son hippocampe, son fauteuil à 3 roues, permet à Stéphane de se rendre sur différents terrains, la neige, le sable ou encore aller dans l'eau. Ces 3 vélos ont été choisis chacun pour une utilisation différente. Son vélo tout-terrain à suspension Speed Bike Comp CC l'emmène dans les bois, tandis que la fourche triride électrique, qui est une grosse roue positionnée à l'avant du fauteuil, est plus large pour rouler sur le sable. Enfin, son batek est un vélo qui s'attache au fauteuil et possède une assistance à batterie. C'est celui-là qu'il utilise en automne pour aller dans les bois, car les côtes peuvent être dangereuses. Chacun de ces vélos a coûté entre 10 000 et 20 000 $. Cette année, Stéphane s'est également muni de 3 roues motrices fixées à son fauteuil, un autre produit offert par la compagnie Triride. Pour pouvoir aller au bord de l'eau de façon autonome et ainsi rejoindre sa conjointe et sa fille lors de leur promenade. Un gros équipement d'hiver. Il ne manquait plus à Stéphane que de s'équiper pour le reste de l'année, à savoir l'hiver. Adepte de ski et de raquettes avant son accident, il se sentait triste de ne plus pouvoir faire les activités qu'il aimait, ni même profiter des joies de l'hiver. Le défi était pour lui de trouver une machine qui pouvait l'emmener dans les bois sans rester coincé dans la neige. L'adepte de mécanique rêvait d'obtenir ce produit depuis plusieurs années. Il a alors sauté sur l'occasion dès qu'il a pu obtenir un démo usagé. La MTT 154 est une grande machine à batterie avec une autonomie de 4 heures, une machine de transport conçue pour l'armée ou pour les secours difficiles d'accès, explique Stéphane, avec laquelle il peut aller partout dans les bois et même tracter 3 traîneaux pour s'amuser à plusieurs. Stéphane finance en grande partie tous ses équipements. Quand il a eu son accident, sa maison était presque entièrement payée et il travaillait beaucoup. Aujourd'hui, il achète au fur et à mesure et reçoit un remboursement d'impôts entre 30 et 35 % à chacune de ses dépenses. Ce serait le fun si c'était possible de louer les produits quelque part. On pourrait essayer avant de se décider d'acheter. J'ai pensé louer mes équipements pour que tout le monde puisse en bénéficier pour pas trop cher. Mais si la personne ne fait pas attention... Conscient de la difficulté à revendre ses produits, Stéphane sait que chaque acquisition est faite pour la vie ou pour le plus longtemps possible. C'était Stéphane Paquet s'équipe pour vivre la vie qu'il aime et bouger, un texte paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad.
Interligne sonne l'alarme. Il est temps d'agir. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue. La santé mentale des personnes 2ELGBTQIA+ est en crise. Une mobilisation d'urgence pour la santé mentale des communautés 2ELGBTQIA+ est essentielle. Interligne, organisme dédié au soutien et à l'accompagnement des personnes LGBTQ+, présentait au début mars les résultats percutants d'une étude pancanadienne réalisée par l'EG grâce au soutien de Femmes et égalité des genres Canada. Des chiffres alarmants qui poussent à l'action. L'étude, réalisée auprès de 2007 Canadiens et Canadiennes, compare la santé mentale des personnes 2ELGBTQIA+ à celle des personnes non issues de ces communautés. Les résultats sont sans équivoque. 86% des personnes 2ELGBTQIA+ ont vécu au moins un défi de santé mentale dans la dernière année, comparativement à 64 % des non-2ELGBTQIA+. Seulement 33 % des personnes 2ELGBTQIA+ estiment être en excellente ou bonne santé mentale, contre 49 % chez les non-2ELGBTQIA+. 28 % des personnes 2ELGBTQIA+ jugent leur santé mentale mauvaise ou très mauvaise, contre 14 % des non-2ELGBTQIA+. En matière de soutien, l'étude révèle aussi une insatisfaction marquée. 68 % des personnes répondantes 2ELGBTQIA+ se disent satisfaites du soutien reçu. 28 % des personnes 2ELGBTQIA+ sont insatisfaites du soutien reçu. Un appel à l'action pour un soutien accru. Ces chiffres confirment ce que nous observons quotidiennement, un manque criant de ressources adaptées. Il est impératif que les décideurs prennent conscience de cette réalité et agissent rapidement pour financer des services de soutien accessibles et durables, affirme Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne. Interligne demande aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux de se mobiliser pour mettre en place des mesures concrètes afin de répondre aux besoins spécifiques des communautés 2ELGBTQIA+. Ensemble, mobilisons-nous pour un meilleur accès aux soins de santé mentale des communautés 2ELGBTQIA+, poursuit Pascal Vaillancourt. Fondée il y a 45 ans cette année, Interligne est un organisme communautaire de première ligne qui contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres, en offrant des services d'écoute, d'intervention et de sensibilisation. À travers ses actions, l'organisme vise à briser l'isolement des personnes 2ELGBTQIA+, à fournir un soutien concret et adapté aux enjeux de santé mentale et à sensibiliser le grand public et les décideurs aux réalités des communautés LGBTQ+. Info, page web, interligne.co. C'était Interligne sonne l'alarme, il est temps d'agir. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue.